Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Protégez-vous et tout go. Au programme, des prothèses auditives bientôt en vente libre. La culture des diètes, une charge mentale trop lourde. Téléphonie sans fil, personnes handicapées et allophones victimes de pratiques douteuses. Et 6 façons de développer sa résilience. Bonne écoute.
Des prothèses auditives bientôt en vente libre, par Mathieu Sainte-Marie, texte tiré de la revue Protégez-vous, le 7 mars 2023. Les prothèses auditives sont chères et le programme de soutien de la RAMQ n'est pas pour tous. Faudrait-il rendre accessibles des prothèses d'appoint à moins de 1 000 $? Depuis octobre dernier, des prothèses auditives bon marché sont disponibles en vente libre aux États-Unis. L'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, le OOAQ, met de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il imite nos voisins du Sud. Ces prothèses, dont le prix oscille entre 400 et 1 000 $, sont destinées aux adultes ayant une perte auditive perçue comme légère à modérée. Ces appareils n'ont pas à être utilisés en permanence, mais seulement au besoin. Je les compare aux lunettes de lecture qu'on achète dans une pharmacie, dit Paul-André Galland, président de l'OOAQ. Il est fort possible que la personne doive consulter un optométriste, mais ces lunettes vont répondre à un besoin immédiat. C'est un peu le même principe pour les prothèses auditives en vente libre. Depuis peu, l'Ordre professionnel milite pour que Santé Canada approuve ces appareils afin que les consommateurs puissent les acheter sans évaluation médicale ni ordonnance. À l'heure actuelle, seuls les audioprothésistes ont le droit de vendre, de poser, d'ajuster ou de remplacer des prothèses auditives au Québec. Cela changerait la donne car les usagers qui vont se procurer ces appareils vont améliorer leur santé auditive à long terme, affirme Paul-André Galland. Selon le président de l'OOAQ, une personne qui soupçonne une perte auditive attend environ 7 ans avant de demander de l'aide. Cette donnée est inquiétante lorsqu'on sait que les conséquences de la déficience auditive non traitée peuvent être importantes et multiples. Fatigue cognitive, isolement social, anxiété, diminution de la qualité de vie et augmentation du risque de démence. D'après Paul-André Galland, le coût des prothèses auditives vendues au privé oscille entre 3 000 et 8 000 $. Leur prix est une des raisons pour lesquelles les Québécois hésitent longtemps avant de les acheter. Les prothèses obtenues par l'entremise de la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, coûtent moins de 1 000 $ et peuvent convenir à la plupart des gens. Qui a accès au programme de la RAMQ? Selon les situations, la RAMQ paie pour un ou 2 appareils auditifs. Il faut toutefois être admissible au programme d'aide auditive du gouvernement du Québec. Ce programme vise les adultes de 19 ans et plus qui ont une déficience auditive moyenne d'au moins 35 décibels à leur meilleure oreille, celle qui a la capacité auditive la plus grande. Les jeunes âgés de 12 à 18 ans ainsi que les étudiants de 19 ans et plus doivent avoir une déficience auditive d'au moins 25 décibels à une oreille pour en bénéficier aussi. De leur côté, les 11 ans et moins ont accès au programme s'ils ont une déficience auditive susceptible de compromettre le développement de la parole et du langage. Précisons que si un enfant a un retard de développement du langage, la première étape est de vérifier l'intégrité de ses fonctions auditives par une évaluation de l'audition. Notons que le programme ne couvre qu'une seule prothèse auditive si la personne âgée de 18 ans et plus ne fait pas d'études ou ne travaille pas. Les retraités n'ont donc pas le droit à 2 prothèses, déplore Paul-André Galland. Est-ce que vous vous voyez porter seulement un verre de correction dans une paire de lunettes? Les retraités ont une vie sociale active et on ne peut pas accepter que les gens qui ont des besoins dans les 2 oreilles aient seulement 1 appareil auditif. Près d'1/3 des jeunes atteints de perte auditive. À l'heure actuelle, Quelque 864 000 Québécois présentent une déficience auditive permanente, soit 10 % de la population. Et pour le président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, l'accessibilité aux prothèses auditives est devenue une question de santé publique. Évidemment, les personnes âgées souffrent le plus de problèmes auditifs. Toutefois, les jeunes n'y échappent pas. Selon des données de Santé Canada datant de 2019, la moitié des jeunes de 19 à 29 ans rapportent avoir eu des symptômes comme l'acouphène. Et chez les 12 à 17 ans, jusqu'à 33 % des jeunes rapportent une dégradation de l'audition survenue au cours des 5 dernières années. L'amplification du bruit dans les écouteurs accélère le déclin de l'audition. Les jeunes pensent que leurs oreilles se réparent, mais ce n'est pas le cas, note Paul-André Galland. C'était un texte tiré de la revue Protégez-vous, écrit par Mathieu Sainte-Marie, daté du 7 mars 2023, qui s'intitulait « Des prothèses auditives bientôt en vente libre ».
La culture des diètes, une charge mentale trop lourde, un texte de Andréanne Dufour-Bouchard, paru le 25 avril 2023, dans Togo. La culture des diètes est omniprésente dans notre société. Que ce soit à l'aide de remises en forme intensives, de règles culpabilisantes ou de diètes restrictives, de nombreuses personnes essaient désespérément de contrôler leur poids. Comment se libérer de cette charge mentale tout en prenant soin de sa santé? On en discute avec Andréanne Dufour-Bouchard, nutritionniste et chef de projet chez Équilibre. Comment se manifeste la charge mentale causée par la culture des diètes? On veut tous et toutes être en bonne santé. Mais dans notre société obsédée par la minceur, il est facile de sentir la pression écrasante qui nous pousse à nous conformer à cet idéal pourtant très irréaliste. On se fait constamment bombarder par de nouvelles publicités de diète, par des messages sur ce qu'on devrait manger pour maigrir, l'entraînement le plus efficace auquel on doit s'astreindre pour modeler son corps, les restrictions qu'on doit s'infliger. Pas étonnant que tant de gens souffrent d'anxiété liée à leur poids. Selon un sondage réalisé par Léger en août 2022 pour Équilibre, 62 % des Québécois et Québécoises veulent maigrir, peu importe leur poids, et 42 % ressentent du stress en raison de leur poids. On se sent coupable de manger certains aliments et on s'oblige souvent à pratiquer des activités physiques qu'on n'aime pas. Cela a un impact considérable sur notre rapport à la nourriture et à l'exercice. Ça affecte aussi notre vie sociale. Certaines personnes vont se priver d'aller au resto avec leurs proches par crainte d'ingérer trop de calories. Les personnes qui se sentent prises au piège de la culture des diètes souffrent souvent d'une faible estime d'elles-mêmes et d'une image corporelle négative car elles s'efforcent d'atteindre un objectif inaccessible et s'attribuent le blâme de l'échec plutôt que de remettre en question l'efficacité de la méthode. Elles peuvent également éprouver un sentiment de culpabilité ou de honte lorsqu'elles se laissent tenter par des aliments interdits ou se sentir constamment anxieuses et accablées par la pression qu'elles subissent pour maintenir leur poids. Cela peut notamment conduire à des troubles de l'alimentation qui peuvent causer des dommages supplémentaires. Pourquoi notre société met-elle autant l'accent sur le contrôle du poids? La minceur est très valorisée dans notre société. La culture des diètes nous fait croire qu'on peut perdre du poids facilement, alors qu'en réalité, de nombreux facteurs incontrôlables entrent en jeu, la génétique, l'âge, l'arrivée de la ménopause, la prise de certains médicaments, etc. Cette mentalité nous pousse à nous peser régulièrement et à laisser le chiffre sur la balance dicter notre humeur, même s'il ne s'agit que de quelques grammes en plus ou en moins par rapport à la veille. De plus, de nombreuses croyances blessantes ou non fondées sur le poids, les personnes grosses seraient paresseuses, manqueraient de discipline ou de maîtrise de soi, etc., peuvent nous inciter à vouloir éviter de prendre du poids. Ces messages sont omniprésents et créent un sentiment d'urgence à être mince, quel qu'en soit le coût. Durant la pandémie, beaucoup de personnes s'inquiétaient davantage de prendre du poids que du virus lui-même. Ce n'est pas banal. L'adjectif « grosse » est un qualificatif descriptif utilisé pour désigner la grosseur sans connotation péjorative. L'industrie de la perte de poids est énorme et très lucrative. Elle est une des seules industries inefficaces à long terme qu'on ne remet pas en question. Si une autre industrie avait un taux de réussite aussi bas, elle aurait des comptes à rendre. Que peut-on faire pour se libérer de cette charge mentale? Les trois attitudes suivantes peuvent nous aider à alléger la charge mentale créée par la culture des diètes. 1. Reconnaître notre valeur. La première étape consiste à reconnaître que notre poids ne définit pas notre valeur. Il faut travailler à se détacher du modèle de beauté irréaliste que la société nous présente, à faire le deuil d'un corps parfait et à cesser d'émettre des commentaires sur notre poids et celui des autres. On peut également apprendre à apprécier notre corps pour tout ce qu'il nous permet de faire indépendamment de son apparence. 2. Travailler notre relation avec la nourriture et l'activité physique. Il est également important de prendre soin de soi en étant à l'écoute des besoins de notre corps plutôt qu'en étant dans une optique de contrôle à son égard. On peut réapprendre à faire confiance à notre corps en reconnaissant les signaux de la faim et en les écoutant. On peut faire la paix avec les aliments interdits et apprendre à identifier nos vraies préférences, manger une variété d'aliments sans se culpabiliser. On consacre du temps à des activités physiques qui nous apportent de la joie et on se montre flexible. On a un cours de spinning une journée et on ne se sent pas en forme pour y aller. On fait une marche à la place où on accepte que notre corps a besoin de repos aujourd'hui. Tout cela est favorable au maintien de ses habitudes de vie à long terme, ce qui est bon autant pour notre santé physique que mentale. 3. Faire le ménage de nos réseaux sociaux. On peut aussi se désabonner de comptes de personnalités sur les réseaux sociaux qui nous font nous sentir mal chaque fois qu'on clique sur leur profil et en profiter pour diversifier les comptes auxquels on s'abonne. Il est même possible de masquer les publicités de diète afin de ne plus être la cible de ce type de contenu. En reconnaissant notre propre valeur, en prenant soin de notre bien-être physique et mental, et en remettant en question les attentes de la société, on peut créer une relation plus saine avec la nourriture et notre propre corps. C'était « La culture des diètes », une charge mentale trop lourde, un texte de André-Anne Dufour-Bouchard, paru le 25 avril 2023, dans To Go.
Téléphonie sans fil, personnes handicapées et allophones, victimes de pratiques douteuses, par Joanne David, le 2 octobre 2020, tiré de la revue Protégez-vous. Vous êtes satisfait de votre fournisseur de services de téléphonie sans fil? Les personnes handicapées et les allophones ne partagent pas nécessairement votre avis. Et c'est ce qui ressort d'une enquête du CRTC sur les pratiques de vente des entreprises de télécommunications. Pour comprendre comment se déroule la vente des services mobiles sans fil et la façon dont les clients vivent cette expérience, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, a fait appel à 422 clients mystères. Ces clients mystères se présentaient comme de nouveaux clients et des clients existants. La vente se déroulait en magasin, par téléphone ou en ligne, clavardage, et visait les 6 plus grands fournisseurs au Canada, Bell, Rogers, TELUS, Saxtel, Freedom et Vidéotron. Le CRTC voulait notamment savoir comment les services étaient vendus auprès des Canadiens plus vulnérables en raison d'un handicap, d'une barrière linguistique ou de l'âge. 20% des gens se sentent victimes d'une vente trompeuse. Les résultats du projet de client mystère indiquent qu'un client sur 5 a une impression d'avoir fait face à des pratiques de vente trompeuses ou agressives. Il est question ici de se faire offrir des produits ou des services inappropriés, d'obtenir des informations peu claires, de se sentir obligé de souscrire à un produit ou à un service, ou de ne pas avoir assez de temps pour prendre une décision éclairée. Les clients ayant un handicap et les allophones seraient plus affectés par de telles pratiques, voire susceptibles de les subir, ce qui n'est pas le cas des personnes âgées qui s'estiment bien servies par les vendeurs. Accessibilité en ligne et en personne. Parmi les clients mystères ayant un handicap, ce sont les personnes aveugles ou malvoyantes, ainsi que les clients sourds et aveugles qui ont le taux de satisfaction le plus faible, soit 64% et 50% respectivement. Cela s'explique notamment par le fait que la plupart des compagnies n'ont que très peu de fonctionnalités de clavardage, chat, sur leur site web, voire aucun bouton ou icône de clavardage. Or, plusieurs clients aveugles ou malvoyants qui utilisent des outils d'assistance pour lire du texte sur le web ont indiqué qu'en absence d'un tel bouton, icône, leur logiciel ne pouvait pas détecter le service de chat en ligne. Et pas simple non plus, lorsqu'on souffre de surdité, de se prévaloir en boutique du service d'un interprète en langage des signes, et ce bien que ce service soit offert par plusieurs fournisseurs. Vente sous pression. Selon l'étude, près de la moitié, 44% des clients mystères ayant un handicap sont plus susceptibles de faire face à la persistance d'un vendeur lorsqu'ils déclinent une offre ou un produit. Fait intéressant, les clientes mystères sont plus sujettes que les hommes à subir les pressions d'un vendeur lorsqu'elles refusent un produit. Les vendeurs et les droits des consommateurs. Seuls 25% des vendeurs ont indiqué aux clients mystères ayant un handicap qu'ils avaient droit à des rabais ou à des plans liés à l'accessibilité, et 15% seulement ont mentionné que la période d'essai pour les clients avec handicap est de 30 jours, contre 15 jours pour les consommateurs sans handicap. Plus de la moitié, 57% des clients sourds aveugles, n'ont pas eu d'explication relativement à leurs droits de consommateurs. La barrière de la langue. Plus du tiers des clients mystères allophones ont indiqué que les vendeurs ne faisaient pas d'efforts pour s'adapter à la barrière linguistique et 40% estiment que le vendeur a minimisé leurs préoccupations telles que les frais d'utilisation excédentaires, l'offre de services non nécessaires, les produits ou services comprenant des allocations supérieures ou inférieures aux besoins réels exprimés. À peine plus de la moitié d'entre eux se sont vus proposer des conseils utiles répondant à leurs préoccupations. L'énigme des aînés. Le CRTC veut poursuivre ses projets de clients mystères et faire la lumière, entre autres choses, sur le fait que les clients plus âgés se sont dit généralement satisfaits à presque tous les égards. Alors, c'était un texte tiré de la revue Protégez-vous, un texte du 2 octobre 2020, écrit par Joanne David, qui s'appelait « Téléphonie sans fil », personnes handicapées et allophones victimes de pratiques douteuses.
Six façons de développer sa résilience. un texte de Nathalie Parent paru le 29 novembre 2022 dans To Go. La vie est imprévisible. Parfois, on pense savoir ce qu'on fait et où on va, et soudain, la vie décide de nous faire prendre un chemin de traverse. Notre partenaire nous quitte sans préavis. On fait face à un licenciement au travail ou à un refus de notre demande de formation. Comment faire de ces difficultés un tremplin? Qu'une porte se ferme dans notre vie amoureuse, familiale ou professionnelle, c'est toujours difficile à accepter et à vivre. Mais une chose est sûre, qu'on soit au top dans notre domaine ou qu'on ait une vie de famille idéale, on fera inévitablement face à la déception à un moment ou à un autre. Cette déception ou cet échec est souvent ce qui amorce le changement et le progrès. On n'a qu'à penser à l'enfant qui apprend à marcher. Chaque chute lui permet de mieux maîtriser son équilibre et de progresser. Il est impossible d'être au top en tout temps, comme personne, parent ou proche, au travail, en affaires, en amitié, etc. On rencontrera des obstacles à un moment donné qui peuvent nous amener à baisser les bras. C'est humain. Il s'agit de se relever, de s'épousseter et de continuer quand on tombe. Voici 6 conseils pour développer sa résilience face aux difficultés. 1. Arrêtez de croire qu'on est la seule personne à ne pas avoir réussi. On doit se débarrasser de l'idée qu'on est la seule personne au monde à avoir raté son coup dans la création d'une entreprise, à avoir de la difficulté avec la prise en charge de nos parents ou dans notre vie amoureuse, à manquer son coup dans la confection d'un gâteau, à procrastiner dans notre remise en forme, etc. Des millions de personnes, chaque jour, vivent des échecs. En fait, en lisant la biographie de n'importe quelle personnalité qui a réussi, il est pas mal certain qu'on trouvera des échecs ou des difficultés dans son parcours. Avant d'être élu président des États-Unis en 1860, Abraham Lincoln a perdu 8 élections, fait 2 faillites et une grave dépression. Mais il n'a jamais abandonné. Tout le monde fait des erreurs ou voit la malchance s'abattre sur lui. Le chemin de la réussite et du bonheur n'est pas en ligne droite et tracé d'avance. Il peut être long, sinueux et chaotique. Les accidents et les sorties de route font partie du voyage. 2. Accepter la situation et nos émotions. Il est normal, après un coup dur, de ressentir de la déception, de la tristesse, de la colère et une baisse de confiance en soi pendant un moment. Se laisser la place nécessaire pour vivre ces émotions nous permettra de les accepter plus rapidement et de voir la situation comme un défi plutôt que comme une fin de non-recevoir. Après tout, l'échec ou le coup dur concerne un événement précis, pas l'entièreté de notre personne. Quand on essaie quelque chose de nouveau, il est normal qu'on ne soit pas au top au début. On est en apprentissage. Cela ne signifie pas qu'on n'a pas le potentiel pour y parvenir, mais qu'on doit continuer à travailler. Ou ne pas s'obstiner si on s'aperçoit que la chose ne nous convient pas. Pensons aux athlètes ou aux personnalités qu'on admire. La plupart avaient sans doute de grandes compétences à leur naissance, mais la raison pour laquelle ces personnes sont rendues là où elles sont tient davantage à leur travail acharné et aux obstacles qu'elles ont surmontés en cours de route. 3. Analyser les causes d'un échec. Une des meilleures façons de vivre un échec de façon constructive est de réfléchir à notre situation. On peut se poser les questions suivantes. Où ai-je fait fausse route? Quels facteurs n'ai-je pas pris en compte? Y a-t-il des aspects qui se sont bien déroulés? Sur quoi avais-je le contrôle? Avais-je assez de motivation? Est-ce que j'avais le bon profil pour ce poste? Est-ce que cette activité, cette relation ou cet emploi me convient vraiment? L'objectif était-il trop élevé? Qu'est-ce que cela m'apprend de moi? Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Que ferais-je autrement si c'était à refaire? Prendre du recul et essayer d'avoir une vue d'ensemble aide toujours à mettre le doigt sur ce qui a empêché l'atteinte du résultat souhaité et nous permet d'éviter de refaire les mêmes erreurs. 4. Identifier des stratégies pour l'avenir. On met ensuite en place des moyens concrets de favoriser l'atteinte de nos objectifs. On peut, par exemple, revoir notre emploi du temps, miser sur de nouvelles habitudes de vie, redéfinir nos priorités, se fixer de plus petits objectifs. Quand on porte notre attention sur ce qu'on fera ensuite, on apprend à moins se soucier du passé. Cela nous aide à considérer les erreurs comme des apprentissages plutôt que comme des obstacles à notre développement. 5. En parler à quelqu'un. Quand on se retrouve dans une position difficile, il est humain de vouloir s'isoler. On peut avoir honte, être dans l'embarras, on peut même vivre de la frustration. Cependant, la chose la plus importante à faire dans cette situation est d'aller vers une personne en qui on a confiance. Cette personne pourra nous rappeler nos points forts, nos qualités, nos succès, notre potentiel. Ce petit boost de confiance en soi nous permettra d'aller de l'avant. 6. S'ouvrir à de nouveaux projets. Il est important de ne pas s'apitoyer sur son sort, du moins pas trop longtemps, de se relever et de continuer à avancer. Comme le dit le dicton, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Essayons de ne pas considérer notre échec ou difficulté comme une occasion manquée, mais plutôt comme une flèche nous indiquant un autre chemin possible. Qui sait, on démarrera peut-être un nouveau projet, plus en phase avec notre personnalité. Il est aussi temps d'arrêter de penser qu'on réussit seulement si on atteint la perfection. La perfection est une illusion. Parce qu'au bout du compte, la meilleure façon d'évaluer nos succès et nos échecs, c'est de prendre en compte ce qui importe pour nous, ce qui est aligné sur nos valeurs. Et ça, c'est à nous de le déterminer et à personne d'autre. C'était 6 façons de développer sa résilience, un texte de Nathalie Parent, paru le 29 novembre 2022 dans To Go.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vusezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Serge Hamelin, Lynn Lamarche et Luc Mercure à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté et Diane Métaillé à la recherche, Aya Jennifer Ando à la présentation et Nicolas Swartman au montage.